Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 25 septembre. Aujourd'hui, on va encore parler de grands projets qui menacent notre environnement assez proche dans la région, puisqu'on va s'intéresser à la ligne grande vitesse. Montpellier-Perpignan, par contre, qui arrive à grande vitesse justement avec un projet qui risque de pas mal transformer les alentours de l'étang de Thau. On va parler aussi de la centrale à biomasse de Gardanne avec des réunions qui ont lieu suite à l'enquête publique qui se déploie en ce moment sur tout le territoire de l'emprise de cette méga centrale qui fait donc fonctionner beaucoup de scieries. On va parler aussi d'un voyage étonnant, celui des personnels de l'enseignement de l'université de Montpellier au Puy du Fou, pas moins que ça. Et Héloïse nous parlera aussi... On fera un billet sur l'art contemporain, l'art contemporain, le rien, tout ça, on en parlera. Mais avant tout cela, de l'actualité chaude, hein, puisqu'on va encore s'intéresser au sort de cette flottille, la flottille pour Gaza, la flottille humanitaire globale Soumoud, qui est en route vers Gaza depuis la mi-septembre, hein, qui a quitté le port de Tunis. Il y a maintenant plus d'une semaine, pour tenter de briser le blocus israélien et apporter de l'aide humanitaire. Eh bien, elle a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi. Un mardi, je vous informais déjà de la présence de drones au-dessus de ces bateaux. Eh bien, cette fois-ci, une quinzaine de drones ont donc mené une attaque, selon les témoignages des participants à cette flottille. Les attaques n'ont pas fait de blessés humains, mais ont causé de gros dégâts matériels sur plusieurs de ces bateaux. Une flottille qui comprend quand même une cinquantaine de navires avec à bord 500 participants de plus de 47 nationalités. On va écouter le témoignage de Émilien Urbach, qui est journaliste à l'Humanité et qui est embarqué à bord du Mia Mia, qui relate justement les faits de cette nuit-là. C'était en vidéo sur le site de l'Humanité. Ils ont une chaîne YouTube où on peut donc retrouver toutes ces interventions.
Hier, un peu après la tombée de la nuit, on a appris que le Sirius, donc, qui est le plus gros voilier de la flotte, avait été survolé par une quinzaine de drones. On avait déjà connu ce genre d'épisode deux jours avant. Des survols de drones qui étaient inquiétants, mais sans qu'il se passe grand-chose. Une ou deux heures après, on a appris que deux bateaux avaient reçu des produits liquides, odorants, largué par des drones. 10 minutes avant minuit, on a entendu une première détonation et puis ensuite, on en a entendu jusqu'à 8 autres dans la nuit jusqu'à 2h30 du matin. Un petit drone rouge qui fait beaucoup de bruit, comme ça, et puis qui tombe sur le voilier en faisant une explosion. Et un bruit, une détonation très très puissant, genre une grenade de désencerclement en fait. Donc ça fait en tout, en effet, 11 voiliers qui ont été touchés, soit par ce liquide, dont on ne sait pas trop ce que c'est, soit par ces grenades. Trois au moins ont été endommagés, c'est-à-dire qu'il y en a un dont un été, c'est ces câbles qui tiennent les mâts, a été rompu par l'explosion. Deux ont des voiles qui ont été détruites par l'explosion. Voilà, on est encore en train de digérer, d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai essayé de contacter le Quai d'Orsay dans la nuit, qui semblait un peu désemparé. En fait, on les a reçus ce matin. Peut-être qu'ils sont en train de prendre de la mesure, mais en fait, on a besoin. Les gens qui sont à bord de la flottille, notamment la quarantaine de Français, on a besoin d'être protégés. Pour le coup, c'est réellement nos vies qui sont en danger. Alors que je le rappelle, c'est un convoi humanitaire, c'est des voiliers chargés de lait en poudre pour les gamins, de médicaments, de nourriture. C'est un convoi humanitaire. On a besoin que l'État français maintenant protège ce convoi. C'est essentiel. Enfin, on a du mal à comprendre des situations comme celle qu'on hier matin, où sur une chaîne de radio publique, on entend le discours de l'extrême droite israélienne dans la bouche de Sophia Aram, et c'est diffusé sur une chaîne de radio publique. Et à côté de ça, on a des ressortissants français qui se font littéralement tirer dessus, et pas de réaction de l'État français. Il y a quelque chose qui fonctionne plus du tout. Là. On sait très bien que Emmanuel Macron ait reconnu l'État de Palestine. Il faut qu'ils prennent des mesures claires pour protéger cette flottille et plus largement, bien sûr, pour protéger les populations gazaouires. Enfin, la première mesure, c'est bien sûr que le droit international soit respecté, que les convois humanitaires puissent accéder aux populations qui en ont besoin. C'est assez incompréhensible que les choses restent dans le domaine du symbole de la part d'un État comme la France et que des réelles mesures ne soient pas prises. Là, il y a besoin, clairement, et des députés français l'ont proposé, hein, qu'une frégate française accompagne ce convoi humanitaire, puisque ce convoi humanitaire est attaqué. Sinon, il n'y a plus de droit international. C'est incompréhensible. Oui, ben, il y a clairement une intention de vouloir mettre cet acte qui est un acte pacifiste, qui est un acte de solidarité en Méditerranée, sur le terrain d'un combat guerrier, d'un combat de violence, qui est le langage de l'État israélien depuis des années. Alors, je pense que la force de cette flottille, des 300 personnes qui sont engagées, c'est justement de s'être préparé à ça et d'avoir aucunement envie de répondre par quelque sorte de violence que ce soit. D'ailleurs, dans la nuit, il y a quelqu'un qui a dit « Ah ben, j'ai flashé avec ma torche un des drones, il s'en est allé. » Et quelqu'un lui a dit « Non, non, mais arrête de faire ça, ça peut être pris comme un acte de violence. » Parce que, enfin, il y a vraiment cette concentration, enfin, je sais pas comment dire, cette attention à ne commettre aucun geste qui puisse être pris de la sorte. C'est l'évidence que tous les gens qui sont ici sont des militants pacifiste.
Voilà, c'était donc Émilien Urbach qui relate régulièrement l'avancée de cette flottille pour l'humanité. Aujourd'hui, donc, je dis toujours aucune réponse de l'État français, à part quand même ce communiqué hier. Je vous le livre, il est assez édifiant. La France suit de près avec une grande préoccupation le parcours de la flottille vers Gaza et condamne toute attaque en mer. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères appelle au respect du droit international, en particulier le droit de la mer. Ça, c'était la première salve. Mais ensuite, ils ont dit, donc le Quai d'Orsay poursuit dans son communiqué, les participants à cette initiative ont été informés des risques encourus. Se rendre à Gaza est dangereux et strictement déconseillé, que ce soit par voie terrestre ou maritime. On dirait un peu les trucs sur les guides touristiques. Les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, y compris aux parlementaires et aux journalistes. Voilà. Et le ministère, qui rappelle que la sécurité de nos compatriotes est une priorité, ajoute que ces services suivent attentivement la situation et assureront leur mission de protection consulaire pour gérer au mieux les conséquences de cette initiative. Voilà. En gros, ils sont prêts à tout simplement les rapatrier ou essayer de les sortir de prison une fois que Israël les aura appréhendés. Ça semble être déjà cousu. On peut parler d'autres pays qui ont des réactions différentes. Par exemple, l'Italie, qui hier a condamné l'attaque et déployé une frégate polyvalente pour des opérations de sauvetage potentielles, donc un bateau militaire. C'est le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, qui l'a annoncé, alors que l'Italie, avec Giorgia Meloni au pouvoir, n'est pas franchement favorable, je pense, à la cause des Palestiniens. Mais l'Italie a aussi informé donc Israël de sa décision, toujours par la voix de son ministre de la Défense. Dans une démocratie, les manifestations et les formes de protestation doivent également être protégées lorsqu'elles sont menées conformément au droit international et sans recourir à la violence. Suite à la décision d'ailleurs de l'Italie, c'est l'Espagne qui a également annoncé qu'elle enverrait un navire de sa marine en Méditerranée pour assister la flottille. Le gouvernement espagnol exige que le droit international soit respecté et que le droit de nos citoyens de naviguer en toute sécurité en Méditerranée soit respecté. C'était les paroles du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. D'ailleurs, à l'ONU, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme et la Commission européenne qui condamnent conjointement les attaques de drones à l'explosif ayant frappé cette flotte la nuit dernière. Bien qu'évidemment, ces attaques donc menées hors de tout sur les eaux internationales n'aient été revendiquées par personne, Israël a malgré tout déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à cette flottille d'atteindre la bande de Gaza. Affirmant d'ailleurs par de nombreuses voix de presse que le convoi a été organisé par le Hamas, sans aucune preuve. Et selon la chaîne télépublique israélienne Kan 11, Israël mobilise sa marine militaire pour se préparer donc à intercepter cette flottille lorsqu'elle approchera de Gaza. Si cela se confirmait, Israël commettra donc une entrave à l'aide humanitaire destinée à des civils en zone de guerre, ce qui est là aussi un crime de guerre.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, qu'est-ce que c'est ? Alors, bah justement, les lignes TGV, progrès ou recul, écologiste ou pas, c'est la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan, un vieux projet qui date de la fin des années 80, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Le début des travaux est en effet prévu pour 2029, pour une mise en service normalement en 2034. L'ampleur de ce chantier a de quoi mettre les militants écologistes sur les rails de la contestation pendant une bonne décennie. C'est avec ce bon jeu de mots que commence ce dossier qui a été réalisé dans les colonnes du journal local Le Point, qui est situé sur Montpellier. Le chantier donc, de cette ligne est confié à la SNCF, il est titanesque. Hein. C'est une nouvelle ligne donc, de chemin de fer de 330 km/h sur 150 km de long, qui longe la ligne actuelle. Hein. Ça fait 30 km de raccordement, ça traverse 23 communes entre Montpellier et Perpignan, ce qui implique entre autres d'ériger un viaduc de 30 mètres de haut et de 1,4 km de long le long de l'étang de Thau. Il faudra aussi creuser un tunnel sous le massif de la Gardiole et créer deux nouvelles gares TGV à Béziers et à Narbonne. Le tout pour la petite somme de 6,2 milliards d'euros, financée à 40% par l'État, 40% par les collectivités territoriales et le reste par l'Union européenne, dans le cadre d'un corridor ferroviaire méditerranéen qui relie Budapest au sud de l'Espagne. Les gouvernants, à commencer par la présidente de la région, Carol Delga, qui était déjà une grande partisane de l'autoroute A69, défendent donc ce projet qui est reconnu d'intérêt général. Et pour eux, ce projet permettra de réduire les temps de parcours entre les grandes villes d'Occitanie et les métropoles. Par exemple, pour faire Montpellier et Perpignan, aujourd'hui, ce n'est pas une ligne à grande vitesse. Paris sera donc accessible depuis Perpignan en 4h20 contre 5h10 aujourd'hui, explique la SNCF. Ce gain de temps, pas non plus incroyable, pourrait être encore moins d'ailleurs que ce qu'il est prévu, puisque c'est un rapport de 2022 de France Nature Environnement qui souligne qu'on ne prend pas en compte dans ces gains de temps eh ben, le temps d'accès à ces nouvelles gares, hein, puisqu'en général, elles ne sont pas en centre-ville et les transports en commun les desservent assez peu. Enfin, je ne sais pas si vous avez été à Montpellier Méditerranée ou à Nîmes-Pont-du-Gard, c'est pas à côté, notamment pour ceux qui n'habitent pas en ville, justement. La nouvelle ligne, donc Montpellier-Perpignan, la LNMP, représente en effet, surtout le dernier chaînon manquant entre la France et l'Espagne, et plus largement, je vous le disais, sur ce corridor Budapest-Madrid, puisque la ligne à grande vitesse s'arrête pour l'instant en venant de Paris à Montpellier, et quand on vient de l'Espagne, justement, à Perpignan. Des points sensibles sont justement sous les rails, et c'est ce qui notamment mobilise pas mal les militants et, écologistes. On peut parler de Issanca, de Florensac et de Bessan pour les communes, avec ce projet de ligne à grande vitesse. Plus d'une quinzaine de captages d'eau seront impactés, dénonçait une militante de la CIBT au cours d'une manifestation qui avait eu lieu en mai pour la ressource en eau à Montpellier. L'autre collectif qui est aussi vent debout contre le projet s'appelle Alerte LGV Thau, comme le bassin de Thau. Et lui se réunissait au mois de juin à Loupian. Il alerte sur la construction du viaduc, notamment le viaduc de la Veine, avec des piliers énormes qui seraient implantés directement dans la zone du captage principal d'Issanca. Et ce captage de nappe phréatique alimente en eau la ville de Sète et de nombreuses communes de ce bassin. Les pylônes seraient enterrés à 15 mètres de profondeur et avec une nappe phréatique seulement 20 mètres, donc des gros risques, notamment de pollution. D'ailleurs, c'est l'autorité environnementale qui confirmait dans son avis qui date de janvier 2025 que, en ce qui concerne la qualité des eaux, qu'elles soient donc de surface ou souterraines, le principal risque des chantiers était bien celui de la pollution et que justement pour le cas de Issanca, les travaux préparatoires étaient renvoyés à une autorisation ultérieure en mentionnant d'autres points sensibles dans ce périmètre autour de Florensac et de Bessan. Parmi d'autres principaux enjeux environnementaux qui ont été relevés par cette autorité environnementale figure aussi le risque d'inondation. Alors que justement, lors des réunions publiques de ces dernières années, a priori, les porteurs du projet de LGV défendaient ce projet parce que la ligne actuelle était menacée justement d'inondation. Je vous renvoie là aussi à ces problématiques qui ont été soulevées par des opposants au projet de contournement autoroutier sur la commune de Arles. On a eu un entretien la semaine dernière à ce sujet. Alors, si on reste sur le point de vue, sur le côté écologique et les chantiers et tous les impacts que ça a sur l'environnement, vous le savez, en général, ces chantiers sont soumis à de la compensation. Malgré les 2650 hectares qui seraient consommés par ce projet, donc selon l'autorité environnementale toujours, La région donc va développer des arguments écologiques en expliquant que cette nouvelle ligne va permettre de décongestionner la ligne actuelle, hein, sur laquelle des trains régionaux pourraient monter en puissance, donc il y en aurait plus, et faciliter ainsi les mobilités du quotidien, peu chères et décarbonées, donc moins de voitures. Un autre avantage, toujours mis en avant pour cette ligne à grande vitesse, qu'elle pourrait à la fois accueillir des TGV, mais aussi des trains de marchandises. Une infrastructure qui réduirait ainsi donc de façon significative la circulation des poids lourds sur les routes et des autoroutes, en contribuant à améliorer la qualité de l'air. Je vous rappelle que la région, à côté de ça, soutient la construction d'autoroutes. Alors, justement, dans sa réponse à l'enquête publique, France Nature Environnement reprend les arguments, et celle-ci est évidemment très favorable au fret sur train. Elle notait en 2022, justement, que ce dossier ne témoignait pas d'une ambition en matière de transfert modal, c'est-à-dire de faire passer les marchandises de la route au train. Et ce, dans une mesure des besoins de décarbonation des transports de marchandises, qui n'est pas contesté du tout. Elle constate donc que dans le dossier et dans le bilan socio-économique, le fret compte quasiment pour zéro. Le chiffre est contesté par la SNCF, qui espère, elle, un équilibre entre les émissions de CO2 émises par le chantier et des émissions qui seraient évitées au bout de 35 ans d'exploitation. Donc c'est toujours du crédit sur le futur, hein. On vous promet que tout cela va être compensé, pas ailleurs dans l'espace, mais cette fois-ci ailleurs dans le temps. Même le Conseil national d'ailleurs de protection de la nature, hein, qui est rattaché au ministère de la transition écologique, rendait à ce mois de février un avis consultatif défavorable sur le projet. Il dénonçait justement un temps de retour carbone du projet incompatible avec cet objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050. Voilà, dans cet article, il est aussi pas mal détaillé les impacts sur les zones naturelles, par exemple des sites qui sont classés Natura 2000, hein, dont des zones spéciales de conservation, des zones de protection spéciale, hein, puisqu'on est dans une zone quand même avec l'étang à côté, et des marais, et pas mal d'oiseaux et d'espèces rares. Ce tracé, en tout cas, s'il avait lieu quasi rectiligne, fera l'effet d'un bulldozer sur les paysages de l'Hérault, défigurant le massif de la Gardiole, qui a déjà la Neuf qu'il traverse, l'étang de Thau aussi, pour ne citer que les plus emblématiques. Et selon le Conseil national de protection de la nature, entraînera une fragmentation élevée de nombreux espaces. Les écologistes alertent sur les impacts sur de très nombreuses espèces, hein, plus de 800 impactées. La ressource en eau dont je vous ai déjà parlé. Et donc les militants dénoncent un projet vieux de 30 ans, sans lien avec les besoins réels de la population. Pour elles et eux, cet argument de la saturation du réseau existant, donc des voies de chemin de fer qui sont déjà là, ne tient pas. Et ils donnent quelques chiffres, hein. 45 trains circulent par jour sur le tronçon Montpellier-Narbonne, alors que la norme de tracé horaire permettrait d'en faire circuler plus de 200. Donc on pourrait déjà multiplier par 4 le trafic. Et d'une manière en générale, d'ailleurs en France, le réseau ferroviaire ne semble pas saturé, hein. On a 26 000 km de ligne pour 15 000 trains par jour, selon la SNCF. Ça fait 0,57 trains par kilomètre de réseau. Et si on regarde les chiffres des nos voisins, en Suisse, ils sont à 1,9. Donc ils utilisent 4 fois plus leur ligne de train. Et 1 pour la Belgique, qui a donc 2 fois plus de trains aussi par kilomètre de rail. Et des réseaux qui sont pourtant bien plus petits. Pour élargir un peu le débat et citer un livre qui s'appelle « Trafic en tout genre, le projet Lyon-Turin » avec l'auteur Daniel Ibanez, un livre de 2014. Et il balaye aussi l'argument économique mis souvent en avant pour ces projets. Il rappelle que l'État doit rendre des comptes sur ces grands projets, qu'on n'a aucun résultat, aucun bilan publié sur les investissements passés dans le ferroviaire, alors justement que la loi d'orientation des transports intérieurs qui date de 1982 imposait bien des évaluations qui seraient publiées au plus tard 5 ans après la mise en service de toutes les grandes infrastructures de transport, et il rappelle que ce n'est quasiment jamais fait. Pour lui, il faut donc avant tout se poser la question d'utiliser de nouvelles lignes ferroviaires et de mieux exploiter le réseau existant. Pour les deux collectifs qui sont engagés localement contre ce projet, donc Alerte LGV Thau et la CIBT, ils partagent ce diagnostic, hein, mais ont des moyens d'action différents. Le collectif LGV Thau va privilégier, semble-t-il, la négociation pour proposer un autre tracé qui épouserait mieux le territoire en préservant les zones sensibles et serait moins coûteux. Et privilégierait aussi l'investissement dans des transports de proximité, tandis que le collectif CIBT, lui plutôt sur une ligne anticapitaliste, ne veut pas de cette ligne à grande vitesse, ni ici ni ailleurs. Il dénonce un imaginaire mortifère de croissance infinie. Et pour ce qui est de la région Occitanie, eh bien, la présidente et les services ont été contactés par les journalistes du Point, mais ils n'ont pas donné suite à leurs sollicitations.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
On part à Montpellier, toujours dans les colonnes du Point, avec cette petite article à l'ironie mordante, et on y apprend que l'association des personnels de l'université de Montpellier, la PUM, propose à ses adhérents, donc des gens qui travaillent pour l'université de Montpellier, un week-end au Puy du Fou, ce mois d'octobre. Un choix plutôt cocasse, hein, quand on sait que le parc Le Puy du Fou, fondé par Philippe Devilliers, figure de l'extrême droite identitaire, est accusé de révisionnisme historique et donc pas très compatible avec, a priori, des gens qui travaillent dans le domaine universitaire. Car oui, cette association des personnels de l'Université de Montpellier a été créée pour contribuer à l'amélioration de l'environnement social, culturel et sportif des personnels en activité de l'université. C'est une sorte de comité d'entreprise, hein, mais vu que c'est pas une entreprise, ça s'appelle autrement. Et donc, ils organisent régulièrement des vacances. Et bien là, le séjour est du 25 au 28 octobre au Puy du Fou. Il est rappelé dans cet article que Devilliers, l'ancien patron du Mouvement pour la France, figure adorée des plateaux de CNews, est très connu pour ses positions traditionnalistes et réactionnaires. Il s'est par exemple prononcé en faveur de la remigration, donc le retour des immigrés chez eux. Bref, pas exactement un apôtre de l'esprit critique universitaire. Le Puy du Fou, de son côté, se vante de faire revivre l'histoire avec un grand H. Sauf que justement, des vrais historiens se sont donné la peine d'y aller, d'observer et d'en faire un livre. Ça s'appelle Le Puy du Faux. C'est signé Florian Besson, Pauline Ducré, Guillaume Lancereau et Mathilde Delarère en 2022. Eh bien, on apprend dans ce livre que, justement, ce n'est pas l'histoire qui est enseignée au Puy du Fou, mais plutôt un récit idéologique sous forme de grands spectacles, hein, son et lumière, la Vendée martyrisée, la République sanguinaire, le catholicisme triomphant, les femmes invisibles. Bref, un roman national ripolliné à la gloire des racines chrétiennes de la France. L'université de Montpellier aurait peut-être pu proposer une sortie à Guédelon, un chantier médiéval qui expérimente des techniques historiques, ou un voyage à Oradour-sur-Glane, pour réfléchir à la mémoire. Mais non, c'est donc le parc de Devilliers. Et d'ailleurs, l'association a été contactée par le journaliste du Point, et la PUM ne voit pas de problème. Le secrétariat a rétorqué qu'après vérification dans les brochures commerciales de nos prestataires de loisirs et de voyages, le parc du Puy du Fou est bien dans la catégorie « parc d'attractions ». Bref, conclut cet article. Science toute la semaine, catéchisme le week-end. C'était un petit article qui parle finalement aussi pas mal et qui renvoie à la présence de plus en plus nombreuse de ces fêtes, justement, qui glorifient une certaine tradition. Et c'est Bastamag qui a consacré un dossier ce jour dans ses colonnes. Ça s'appelle « Ces spectacles historiques devenus des chevaux de Troie culturels de l'extrême droite ». On y cite « La Dame de Pierre »,« Murmure de la cité », un des spectacles qui narre un récit simplifié de l'histoire de France en comportant un message identitaire, qui sont mis en scène avec grands moyens, notamment avec des soutiens politiquement marqués, dont Pierre-Édouard Sterrin, dont je vous ai déjà parlé, qui a aussi lancé son label « Plus belle fête de France ». Un des articles dans les colonnes de Bastamag s'intéresse, enfin revient aussi sur le parc de loisirs Rocher Mistral, hein, qui est dans le sud, près d'Aix-en-Provence, qui lui réécrit l'histoire provençale en glorifiant le clergé et la noblesse locale. Voilà, je vous renvoie donc lire tout ça si ça vous intéresse dans les colonnes du journal Bastamag.
Oh, les rebolles, tout ça, c'est écœurant à la fin.
On termine pour ma part avec une invitation à communiquer à une rencontre publique sur la centrale à biomasse de Gardanne. On reste dans les Bouches-du-Rhône. Et on y sera aussi d'ailleurs avec le journaliste Pierre Isnard-Dupuis, qui est l'auteur de l'article dont je vous parlais sur le parc Roger Mistral juste avant. Il y aura donc à cette rencontre publique Jean-Luc Debar pour SOS Forêt Pays Gardanne, Pierre Isnard-Dupuis, journaliste indépendant du collectif Presse Papier. Et c'est ce samedi 27 septembre à Anduze, à 18h à l'espace Pellico. Le titre est simple, s'opposer à l'industrialisation de nos forêts. Nos forêts n'ont qu'à bien se tenir, dit le communiqué, et faire place nette à l'industrialisation en cours. Fini le temps des forêts diversifiées, des arbres tordus, des écosystèmes protecteurs et généreux. Il faut pousser vite et droit, être capable d'approvisionner les besoins en papier, emballage, bois d'œuvre, chauffage, énergie, stocker le carbone, régénérer notre environnement et permettre à de larges secteurs économiques de prospérer. Le bois transformable en biokérosène pourra même peut-être servir à faire voler les avions. Voilà, donc tous les enjeux qui pèsent sur cette forêt, sous couvert de transition énergétique, hein, les forêts deviennent une ressource durable très prisée, dont le rôle serait rien que moins que de pallier donc, la diminution prochaine des énergies fossiles, et dans l'attente, eh bien, des industries qui sont très voraces, eh bien, et dopées aux subventions prolifèrent. On parle de méga scieries, d'usines à pellets pour alimenter les poêles de nouvelle génération, des raffineries de carburant. Tous ces projets écocidaires, donc pour les auteurs de cette rencontre, amplifient la pression sur la ressource et favorisent la transformation des forêts en usines à bois. Avec des coupes rases, des plantations en monoculture, une disparition de la biodiversité et de la ressource en heure, en quelques heures parfois des écosystèmes entiers disparaissent au profit d'industries toujours plus en décalage avec les besoins sociétaux. C'est de tout cela dont il sera question pour cette discussion autour du projet de centrale à biomasse de Gardanne. À elle seule, en effet, c'est 450 000 tonnes de bois par an qui seront englouties, avec un approvisionnement dans un rayon de 250 km autour d'une site sur une quinzaine de départements. C'est 35% de la ressource disponible dans le coin et ça impacte en partie notamment les forêts cévenoles. En plus des forêts françaises qui seront donc fortement impactées, une partie du bois va être importée du Brésil, du bois cultivé avec des herbicides et des pesticides, mais aussi en Italie ou en Espagne. Donc de multiples raisons, vous l'aurez compris, poussent de nombreux collectifs à s'opposer à ce projet. Pour eux déjà, c'est un cadeau de 800 millions d'euros que l'État donne à l'entreprise privée Gazelle Énergie. Celle-ci appartient à un milliardaire tchèque et il rappelle que l'argent pourrait financer d'autres projets et emplois réellement écologiques. Et tout cela avec toujours un petit peu cette menace du chantage sur l'emploi local qui vient justifier un petit peu tous ces offres publiques. Il rappelle aussi que ce projet, c'est raser des forêts qui stockent du CO2 pour le relâcher au moment même où tous les efforts justement restent à faire. Il rappelle que la combustion du bois est moins énergétique, émet plus de carbone et de fumée que des alternatives fossiles, donc c'est pas une bonne alternative, et que pour chaque kilowatt-heure de chaleur ou d'électricité produite, on estime que le bois est susceptible de multiplier par 2 ou 3 la quantité de carbone qu'émettrait par exemple du combustible ordinaire. Il rappelle que tout cela, c'est faire peser une menace supplémentaire sur la forêt, car rien ou presque n'est prévu pour le prélèvement du bois, donc les modalités de coupe et de replantage. Ça n'exclut pas les coupes rases, qui sont très impactantes pour les milieux et les espèces, et ça ajoute de multiples pressions sur la forêt méditerranéenne, qui subit déjà les incendies, la sécheresse, l'urbanisation et le changement climatique. Bref, ça amplifie le problème. Et enfin, il rappelle que tout ça, c'est surtout brûler des arbres pour rien, puisque la centrale n'atteint que 23% de rendement, d'après les chiffres de Gazelle Énergie. 77 arbres sur 100 sont donc brûlés sans produire d'énergie utile et sont uniquement source de réchauffement climatique. Voilà, pour en discuter plus en amont et puis peut-être s'organiser aussi localement. C'est donc ce 27 septembre à 18h à l'espace Pellico dans Duse. Vous pourrez y poser toutes les questions que vous souhaitez.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Héloïse, c'est à toi. Je crois que tu avais penché un petit peu ton attention sur la question de l'art et des expositions.
C'est ça. Et si, dans le flot des nouvelles du monde, on s'arrêtait un instant sur rien ? Pas sur un fait divers brûlant, pas sur une activité qui défile en boucle, non, mais sur ce vide qui traverse aussi nos sociétés et notre culture. Parce que le rien, loin d'être insignifiant, raconte lui aussi quelque chose de notre époque. Et face à un monde qui nous pousse sans cesse à consommer, à remplir nos vies d'objets, d'images, d'événements, peut-être que le rien est devenu un acte de résistance. Commençons par une scène. Nous sommes en 1918, en pleine révolution russe. Dans une salle d'exposition, un peintre, Casimir Malevitch, dévoile une œuvre étrange. Sur la toile, un carré blanc posé sur un fond blanc. Rien d'autre. Les visiteurs se bousculent, s'interrogent, certains s'exclament même « ce n'est pas de l'art, c'est une plaisanterie ». D'autres, au contraire, restent fascinés. Parce que dans cette blancheur sans contour, ils voient un horizon nouveau. Malevitch voulait libérer l'art de toute figuration, de tout récit. Le carré blanc sur fond blanc, c'est la peinture réduite à son silence le plus pur. Une œuvre qui n'offre rien à voir et qui pourtant ouvre à un infini. Un saut dans le temps, 1958, Paris, galerie Iris Clert. Un soir d'avril, une foule élégante se presse au vernissage d'un jeune artiste, Yves Klein. Les invités sont curieux, impatients même. On entre dans la salle et, surprise, il n'y a rien. Des murs blancs, vides, pas une toile, pas une sculpture, le vide total. Les gens se regardent, perplexes. Certains protestent, on nous a trompés. D'autres se laissent happer par cette étrangeté. Car ce vide n'était pas rien. Il était saturé d'attentes, de murmures et de regards. Klein appelait cela l'exposition du vide. Ce qu'il donnait à voir, ce n'était pas un objet, mais un espace. Un espace qui transformait chaque visiteur en spectateur de lui-même. Le rien devenait un miroir. Et puis, il y a ces œuvres qui font sourire, qui agacent même. Prenons Duchamp en 1917, lorsqu'il expose un urinoir. Une cuvette de porcelaine retournée. Rien de spectaculaire, rien de noble. Et pourtant, ce rien, un simple objet de quotidien, a bouleversé l'histoire de l'art. Il affirmait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit, mais l'acte de dire « ceci est une œuvre ». Le rien se charge d'un sens nouveau. Plus récemment encore, souvenez-vous de Maurizio Catlan et sa banane scotchée au mur en 2019 lors de la foire Arbezel. Une banane accrochée avec du ruban adhésif. Beaucoup ont ricané, disant « ce n'est rien, ça », d'autres ont crié au génie. En réalité, l'œuvre interrogeait la spéculation, l'absurdité du marché de l'art. Ce fruit banal, voué à pourrir, devenait le symbole d'un système où l'on paie des fortunes pour presque rien. Alors qu'est-ce que ce rien qui revient sans cesse dans l'histoire de l'art? Est-ce du vide? Est-ce de la provocation? Ou bien au contraire, une invitation? Car le rien n'est pas neutre. Les philosophes l'ont bien compris. Heidegger disait « Le néant n'est pas simplement l'absence de l'étang, mais ce qui permet à l'étang de se révéler. » Autrement dit, sans vide, pas de plein. Sans silence, pas de musique. Sans rien, pas de sens. Et si le sens était justement l'arrière-plan indispensable de nos vies? Nous cherchons toujours à remplir, à accumuler, à produire, mais ce remplissage perpétuel finit par étouffer. Dans ce rien, il y a un espace, un souffle, une respiration. Les poètes l'ont compris avant les philosophes. Mallarmé disait que le blanc de la page était aussi important que les mots qui s'y posent. Le vide est une condition de la création. L'art du rien nous rappelle une vérité simple. Ce qui manque fait aussi partie de l'expérience. Dans un silence, c'est le non-dit qui résonne. Dans une toile blanche, c'est l'imaginaire qui se déploie. Dans une salle vide, c'est le spectateur qui devient acteur. Car au fond, le rien n'est pas une simple absence, c'est une ouverture. Une ouverture à l'infini où chaque spectateur devient créateur en regardant. Et parmi toutes les manières de les comprendre, il y a aussi ce geste critique face à une société qui nous pousse à tout remplir, tout acheter, tout consommer. La contemplation du vide ne réduit pas l'art à une critique sociale, mais elle nous rappelle que nous pouvons choisir de ne pas tout saturer et que la richesse se trouve parfois dans un espace laissé libre.
Et voilà, c'est comme ça que je voulais rendre hommage à ta chronique. 3 secondes de rien à l'antenne. C'est pas rien, justement. Merci beaucoup, Héloïse. C'est en plus parfait, puisque ce soir, c'est la rentrée de l'émission Tout sur Rien, sur les ondes de Radio Escapade, et on s'y intéresse à la pomme. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais si vous aimez le surréalisme, je vous encourage vivement à tendre une oreille. Eh bien, on a un petit jingle pour finir tout ça.
Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Voilà, c'est fini pour les nouvelles du monde. Pour ce jeudi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.